Chapitre 2. Après avoir étalé cette longue et belle pièce d'éloquence, Protagoras se tut. Et moi, toujours sous le charme, je continuais à le regarder comme s'il allait poursuivre, car je désirais l'entendre encore. Mais quand je me fus rendu compte qu'il avait réellement fini, je me ressaisis non sans peine, et me tournant vers Hippocrate, je dis « Ô fils d'Apollodore, combien je te suis obligé de m'avoir engagé à venir ici. Oh, je ne donnerais pas pour beaucoup le plaisir d'avoir entendu ce que je viens d'entendre de Protagoras. Jusqu'à présent, en effet, je croyais qu'il n'y avait pas d'industrie humaine capable de faire des gens de bien. Maintenant, je suis persuadé. Il n'y a qu'une petite difficulté qui m'arrête, mais sans doute Protagoras s'éclaircira facilement, lui qui vient de jeter à profusion la lumière sur ces questions. Si l'on s'entretenait sur ces mêmes sujets avec un de nos orateurs politiques, peut-être entendrait-on aussi des discours aussi beaux de la bouche d'un Périclès ou de quelque autre habile parleur. Mais qu'on leur pose des questions sur un point, ils sont comme les livres. Ils ne savent ni répondre ni interroger eux-mêmes. Mais si on leur demande le plus mince éclaircissement sur le sujet traité, comme des vases d'airain qu'on a choqués résonnent et continuent à résonner tant qu'on ne met pas la main dessus, ainsi nos orateurs, à propos des moindres questions, font un discours à perte de vue. Protagoras, au contraire, est capable de tenir de longs et beaux discours, comme il vient de le montrer. Mais il est capable aussi, si on l'interroge, de répondre brièvement, et s'il interroge, d'attendre et de recevoir la réponse, talent qui n'appartient qu'à peu de gens. Maintenant donc, Protagoras, il n'y a qu'un détail qui me tient en peine. Je serais pleinement satisfait si tu voulais y répondre. Tu dis que la vertu s'enseigne. Mais s'il y a quelqu'un au monde qui passe puisse m'en persuader, c'est toi. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris dans ton discours et sur quoi je voudrais avoir l'esprit satisfait. Tu as dit que Zeus avait envoyé la justice et la pudeur aux hommes. Et d'autre part, en plusieurs endroits de ton discours, tu as parlé de la justice, de la tempérance, de la sainteté, comme si tout cela n'était en somme qu'une seule chose, la vertu. Explique-moi donc nettement si la vertu est une et si la justice, la tempérance, la sainteté n'en sont que des parties ou si toutes ces qualités ne sont, comme je le disais tout à l'heure, que les noms d'une seule et même chose. Voilà ce que je désire encore de toi. À cette question, « Socrate, répondit Protagoras, la réponse est facile. La vertu est une, et les qualités dont tu parles en sont des parties. Et en sont-elles, dis-je, des parties, au même titre que la bouche, le nez, les yeux, les oreilles sont des parties du visage, ou sont-elles comme les parties de l'or, qui ne diffèrent les unes des autres et du tout que sous le rapport de la grandeur et de la petitesse ?» Elles sont comme les premières, ce me semble, Socrate, c'est-à-dire comme les parties du visage, à l'égard du visage entier. Mais les hommes, continuai-je, ont-ils part, les uns à telle de partie de la vertu, les autres à telle autre, ou faut-il nécessairement, quand on en possède une, qu'on les ait toutes ? Pas du tout, dit-il, puisque l'on voit souvent des hommes courageux qui sont injustes, ou des hommes justes qui ne sont pas sages. Alors, ce sont donc aussi, dis-je, des parties de la vertu, la sagesse et le courage. Rien n'est plus certain, répliqua-t-il, et la sagesse est la plus importante de ces parties. Et chacune de ces parties, demandai-je, est différente de l'autre. Oui. Et est-ce que chacune d'elles a aussi sa propriété, comme les parties du visage? L'œil n'est pas tel que l'oreille, elle n'a même pas la même propriété, et aucune autre partie n'est pareille à une autre, ni pour la propriété, ni pour tout le reste. En est-il donc de même des parties de la vertu? Ne sont-elles pas elles aussi différentes l'une de l'autre, et en elles-mêmes et dans leur propriété? N'est-il pas évident qu'elles le sont, s'il faut suivre jusqu'au bout la comparaison? Mais c'est vrai, Socrate, dit-il. Alors, dis-je, parmi les parties de la vertu, il n'y en a pas une qui soit pareille à la science, à la justice, ni au courage, ni à la tempérance, ni à la sainteté. Non, dit-il. Eh bien alors, repris-je, examinons ensemble ce qu'est chacune d'elles. Commençons par la justice. Est-elle quelque chose de réel ou n'est-elle rien? Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de réel. Et toi?
Moi aussi, dit-il.
Eh bien, si quelqu'un nous disait à tous deux, dites-moi, Protagoras et Socrate, ce que vous avez nommé tout à l'heure la justice, est-elle en soi juste ou injuste?
Moi, je lui répondrai qu'elle est juste.
Et toi, ajouterais-tu ton suffrage au mien ou es-tu d'un autre avis?
Je suis de ton avis, dit-il.
Alors, la justice est la même chose qu'être juste?
Oui, répondrai-je à mon questionnaire.
Ne répondrais-tu pas de même?
Si, dit-il.
Et s'il nous demandait ensuite, ne dites-vous pas qu'il y a aussi une sainteté?
Nous répondrions, oui, je suppose.
Oh, sans doute, répondit-il. Et ne dites-vous pas que cette sainteté aussi est quelque chose?
Nous le reconnaîtrions, n'est-ce pas?
Il en tomba d'accord aussi. Mais à votre avis, cette sainteté est-elle en soi la même chose qu'être impie ou qu'être saint?
Oh, je me fâcherais, moi, d'une telle question, et je répondrais, parle mieux, l'ami.
Il n'y aurait vraiment plus rien de saint, et la sainteté même, si la sainteté même n'était pas sainte. Et toi, ne répondrais-tu pas comme moi?
Absolument comme toi, dit-il.
Et si, continuant ses questions, il nous disait, comment disiez-vous donc tout à l'heure? Vous ai-je mal entendu? Vous disiez, si je ne me trompe, que les parties de la vertu ont entre elles des rapports tels qu'aucune ne ressemble aux autres.
Bon, je lui répondrai pour ma part,
pour ce qui a été dit, tu l'as bien entendu, mais quant à croire que c'est moi qui l'ai dit, tu as mal entendu, c'est Protagoras qui a fait cette réponse. Moi, je ne faisais qu'interroger. Et s'il reprenait, Socrate, dit-il la vérité, Protagoras, est-ce toi qui affirme qu'aucune des parties de la vertu ne ressemble aux autres? Est-ce bien cela que tu soutiens? Que lui répondrais-tu?
Force me serait d'avouer, Socrate, dit-il.
Eh, que pourrions-nous bien lui répondre après cet aveu, Protagoras, s'il nous posait encore cette question? La sainteté n'est donc pas susceptible d'être une chose juste, ni la justice d'être une chose sainte, mais la justice est susceptible de n'être pas sainte, et la sainteté de n'être pas juste, c'est-à-dire que la sainteté peut être injuste et la justice impie. Que lui répondrions-nous?
Pour mon compte personnel, je répondrais que la justice est sainte et la sainteté juste.
Et pour ton compte aussi, avec ta permission, je répondrai de même qu'assurément la justice est la même chose que la sainteté, ou qu'elle s'en rapproche aussi près que possible, et que très certainement la justice est pareille à la sainteté, et la sainteté à la justice. Mais vois si tu t'opposes à ce que je réponde ainsi, ou si tu partages mon opinion.
La chose ne me paraît pas si simple, Socrate, répliqua-t-il, que je puisse t'accorder que la justice est sainte et la sainteté juste.
Il me semble qu'il y a quelques différences entre elles.
Mais qu'importe, admettons si tu veux que la justice est sainte et la sainteté juste. Ah non, point, dis-je. Pas de si tu veux, ni de s'il te plaît. Ce ne sont pas des suppositions qu'il faut examiner. C'est toi et moi qu'il faut persuader. C'est toi et moi qui sommes en cause. Et je pense que la meilleure manière de discuter est de supprimer ce « si ». Je reconnais, dit-il, que la justice a quelque ressemblance avec la sainteté, car une chose quelconque ressemble toujours à une autre en quelque manière. Il y a quelques rapports de ressemblance entre le blanc et le noir, entre le dur et le mou, et entre les choses qui paraissent les plus opposées les unes aux autres. Et ces parties même, nous disions tout à l'heure qu'elles avaient des propriétés différentes, que l'une n'était pas pareille à l'autre, je veux dire les parties du visage. Ces parties se ressemblent et sont pareilles les unes aux autres par certains côtés. En sorte que tu pourrais prouver de cette façon, si tu voulais, que toutes ces parties se ressemblent entre elles. Mais il n'est pas juste, à mon avis, d'appeler semblables des choses qui ont quelque rapport de ressemblance, ni dissemblables des choses qui ont quelque rapport de différence, quelque mince que soit ce rapport. Étonné d'une telle réponse, je lui dis, « Mais le juste et le saint sont-ils donc vis-à-vis l'un de l'autre au point de n'avoir qu'un mince rapport de ressemblance ?»« Ce n'est pas tout à fait cela, dit-il, mais ce n'est pas non plus que tu pourrais penser. »« Eh bien, lui dis-je, puisque ce débat ne semble pas de ton goût, laissons-le. » Examinons dans ton discours un autre point. Celui, par exemple, la folie est quelque chose à tes yeux. Oui. Cette chose n'a-t-elle pas exactement pour contraire la sagesse? C'est mon avis, répondit-il. Quand des hommes règlent leurs actes sur le bien et l'utile, crois-tu qu'ils sont tempérants en se conduisant ainsi ou tout le contraire? Ils sont tempérants, dit-il. Et n'est-ce point par la tempérance qu'ils sont tempérants? Si, forcément. Et n'est-il pas vrai que ceux qui n'agissent pas bien agissent follement et ne sont pas tempérants tant qu'ils agissent ainsi? Oui, c'est aussi mon avis, dit-il. Agir follement est donc le contraire d'agir avec tempérance. Oui. Ce qui est fait follement n'est-il pas fait par folie, et ce qui est fait par tempérance, par tempérance? Il en convint. Ce qui est fait avec rigueur n'est-il pas fait vigoureusement, et ce qui est fait avec faiblesse, faiblement? Il le reconnut. Et si quelque chose est fait avec vitesse, n'est-il pas fait vivement, et avec lenteur, lentement? Si. Et si quelque chose est fait de la même manière, n'est-il pas fait par le même principe, et d'une façon contraire, par un principe contraire? Il en demeura d'accord. Mais voyons, dis-je, existe-t-il quelque chose de beau? Il l'admit. Ce beau a-t-il un autre contraire que le laid? Non. Poursuivons. Existe-t-il quelque chose de bon? Oui. Ce bon a-t-il un autre contraire que le mauvais? Non. De même, y a-t-il quelque chose d'aigu dans le son? Oui. Et cet aigu a-t-il un autre contraire que le grave? Non. Chaque contraire n'a donc qu'un seul contraire, dis-je, et non plusieurs. Il en convint. Allons maintenant, dis-je. Récapitulons les choses dont nous sommes convenus. Nous sommes convenus que chaque contraire n'a qu'un seul contraire et non plusieurs, n'est-ce pas? Oui. Que ce qui est fait d'une manière contraire est fait par des principes contraires. Oui. Nous sommes convenus que ce qui est fait follement est fait d'une manière contraire à ce qui est fait avec tempérance. En effet, et que ce qui est fait avec tempérance est fait par tempérance, et ce qui est fait follement, par folie. Il en tomba d'accord. Donc, si ces choses sont faites d'une manière contraire, elles sont faites par un principe contraire. Oui. Or, l'une est faite par la tempérance, l'autre par la folie. Oui, d'une manière contraire. Sans doute. Donc, par des principes contraires. Oui. Dès lors, la folie est contraire à la tempérance. Ben, il paraît. Eh bien, te rappelles-tu que tout à l'heure, nous avons reconnu que la folie est le contraire de la sagesse? Il l'a reconnu. Et qu'un contraire n'a qu'un seul contraire? Oui. Alors, Protagoras, laquelle de ces deux assertions a fait-il rétracter? Celle-ci, qu'un contraire n'a qu'un seul contraire? Ou celle-là, que la sagesse est autre chose que la tempérance? Quelles sont l'une et l'autre des parties de la vertu? Et qu'elles sont seulement différentes, mais encore dissemblables, et en elles-mêmes et dans leurs propriétés, comme les parties du visage? Laquelle de ces deux assertions, dis-je, devons-nous rétracter? Car elles sont en dissonance, puisqu'elles ne s'accordent ni ne s'harmonisent enfin entre elles. Comment en effet pourraient-elles s'accorder, s'il faut nécessairement qu'un contraire n'ait qu'un seul contraire, et non plusieurs, et s'il apparaît d'autre part que la folie, qui est une, a pour contraire la sagesse et la tempérance? Est-ce bien cela, Protagoras? Qu'en penses-tu? Il se déclara d'accord avec moi, mais bien malgré lui. La tempérance et la sagesse seraient donc une même chose. Or, nous avons déjà vu que la justice et la sainteté sont à peu près la même chose. Allons, Protagoras, dis-je, ne nous rebutons pas, examinons le reste. L'homme qui fait une injustice est-il prudent en tant qu'il fait une injustice? Moi, Socrate, dit-il, je rougirais de l'admettre, mais beaucoup de gens le pensent. Alors à qui m'adresserais-je? Demandai-je à eux ou à toi? Oh, si tu veux bien, répliqua-t-il, commence par discuter l'opinion de ces gens-là. Oh, peu importe, pourvu que ce soit toi qui réponde, si c'est ou non ta manière de voir. Car c'est la chose que j'examine avant tout. Bien que par le fait nous nous trouvions peut-être nous-mêmes, et moi qui questionne, et toi qui réponds, soumis aussi à l'examen. Protagoras fit d'abord des façons, alléguant que la matière était épineuse, puis il consentit pourtant à répondre. Allons, dis-je, reprenons la question au commencement. Penses-tu qu'il y ait des gens qui soient prudents en commettant l'injustice? Oh, je veux bien l'admettre, dit-il. Et être prudent, n'est-ce pas, selon toi, penser bien? Si. Et penser bien, n'est-ce pas prendre le bon parti en commettant l'injustice? Ben, admettons-le, répondit-il. Mais, dis-je, prend-on le bon parti quand on réussit en commettant l'injustice ou quand on ne réussit pas? Quand on réussit. Alors tu penses donc qu'il y a des choses bonnes? Oui, et ces choses bonnes, repris-je, sont-elles celles qui sont utiles aux hommes? Oui, par Zeus, répliqua-t-il, mais j'appelle aussi bonnes des choses qui ne sont pas utiles aux hommes. Il me parut que Protagoras était à présent agacé, ennuyé et gêné de répondre. Le voyant en cet état, je le ménageai et l'interrogeai avec douceur. Entends-tu par là, Protagoras, dis-je, des choses qui ne sont utiles à personne ou des choses qui n'ont même pas d'utilité du tout? Et accordes-tu aussi le nom de bonne à des choses de cette sorte? Bon du tout, reprit-il, mais je sais, moi, beaucoup de bonnes choses qui sont préjudiciables aux hommes, comme certains aliments, breuvages, drogues et quantité d'autres choses, et d'autres qui leur sont utiles, et d'autres qui leur sont indifférentes, mais qui sont bonnes pour les chevaux. J'en sais qui sont utiles aux bœufs seulement, et d'autres aux chiens, tels qui ne sont utiles à aucun des animaux ou le sont aux arbres. Et dans l'arbre, certains sont bonnes aux racines, mauvaises aux jeunes pousses. Ainsi, le fumier est bon à toutes les plantes, si on le met aux racines, mais si on veut en couvrir les rejetons et les jeunes pousses, c'est pour gâter tout. De même, l'huile est tout à fait pernicieuse à toutes les plantes, et c'est la grande ennemie des poils chez tous les animaux, sauf chez l'homme où elle aurait salutaire, comme l'est à tout le corps. Le bon est quelque chose de si varié et de si divers que, même dans le corps de l'homme, l'huile n'est bonne que pour l'usage externe et qu'elle est très mauvaise pour l'usage interne. Voilà pourquoi tous les médecins interdisent aux malades l'usage de l'huile. Ils ne leur laissent absolument absorber qu'à de très petites doses, juste assez pour chasser la pression désagréable que font les aliments et les viandes sur le sens de l'odorat. Ce discours fini, les assistants applaudirent à grand bruit à l'éloquence de Protagoras. Pour moi, je lui dis, « La nature, Protagoras, m'a donné peu de mémoire et quand on me tient de longs discours, je perds de vue le sujet de la discussion. Si j'étais dur d'oreille, tu penserais qu'il faut, pour s'entretenir avec moi, parler plus haut qu'avec les autres. Bien, montre donc à présent la même complaisance, et puisque tu es tombé sur un homme oublieux, resserre tes réponses et fais-les plus courtes, si tu veux que je te suive. Mais comment désires-tu que j'abrège mes réponses? Dois-je, dit-il, les faire plus courtes qu'il ne faut? Ah non, pas du tout, répondis-je. Alors aussi courtes qu'il faut, dit-il. Oui, dis-je. Mais c'est de juste mesure dans les réponses. Est-ce moi qui en serai juge ou toi? Oh, j'ai ouï dire, repris-je, que tu es capable, on dit même que tu peux communiquer ce talent aux autres, de traiter les mêmes matières, si tu le veux, avec une abondance telle que la parole ne le fait jamais défaut, ou avec une brièveté telle que personne ne peut s'exprimer en moins de mots. Si donc tu veux discuter avec moi, adopte la seconde manière, la manière concise. J'ai dans ma vie, Socrate, me dit-il, engager des luttes de parole avec bien des gens. Oh, si j'avais fait ce que tu me demandes, si j'avais réglé ma façon de discuter sur les exigences de mes contradicteurs, je n'aurais jamais exclu personne, et le ton de Protagoras ne serait pas connu parmi les Grecs. Je compris qu'il n'était pas content des réponses qu'il m'avait faites jusqu'alors, et qu'il ne consentirait pas volontiers à continuer la discussion de cette manière. Dès lors, pensant que je n'avais plus que faire de prendre part à cet entretien, je lui dis, « Eh bien, moi non plus, Protagoras, je ne veux pas insister pour discuter avec toi suivant un procédé qui ne te plaît pas. Mais quand tu voudras discuter en te mettant à ma portée, je suis ton homme. » On dit en effet, et tu l'avoues toi-même, que tu t'entends aussi bien à resserrer qu'à modifier une discussion, car tu es un habile homme. Moi, au contraire, je n'entends rien à ces longs développements, et je ne puis que regretter mon incapacité. C'était à toi qui es passé maître dans l'une comme dans l'autre manière de condescendre à ma faiblesse, pour que l'entretien continuât, mais puisque tu ne veux pas, comme j'ai certaines affaires qui ne me permettraient pas de rester pour entendre tes longues amplifications, il faut en effet que je me rende quelque part. Je m'en vais, malgré le plaisir que j'aurais à t'entendre sur le sujet qui nous occupe. En disant cela, je me levais pour partir. Mais comme je me levais, Callias me prend la main de sa main droite et de la gauche saisit mon manteau en me disant, « Oh, nous ne te laisserons pas partir, Socrate, car si tu pars, l'entretien n'ira plus de même. Je te prie donc de rester avec nous, car pour moi, rien au monde ne peut être aussi agréable qu'une discussion entre toi et Protagoras. Fais-nous donc ce plaisir à tous. » Je lui répondis, déjà debout pour sortir, « Ô fils d'Hippodikos, j'ai toujours admiré ton amour de la sagesse, et encore à présent je te loue et le prise. Aussi je voudrais bien te faire plaisir, si tu me demandais les choses en mon pouvoir, mais c'est comme si tu me demandais de suivre le jeune coureur Chrysodomère, ou de lutter de vitesse avec un champion de long stade ou à un hémérodrome. Je te répondrai que je désirerais moi-même beaucoup plus que toi de tenir pied à ces coureurs, mais que c'est chose impossible pour moi. Si tu veux nous voir courir dans la même carrière, Grison et moi, prie-le de s'accommoder à ma faiblesse, car moi, je suis incapable de courir vite, tandis que lui peut courir lentement. Si donc tu désires nous entendre, Protagoras et moi, prie-le de continuer à répondre juste à mes questions, en peu de mots, comme il l'a fait d'abord. Sinon, quelle sorte de conversation est-ce là? Pour moi, j'ai toujours cru que causer en société et faire des harangues étaient deux choses différentes. Cependant, tu le vois, Socrate, reprit Callias, Protagoras semble bien dans son droit quand il demande qu'on lui permette de discuter à sa manière, comme toi à la tienne. Ici, Alcibiade prit la parole et dit, tu n'es pas juste, Callias. Car Socrate confesse qu'il n'a pas le don des longs discours, et qu'il cède cet avantage à Protagoras. Mais quant à mener une discussion, et savoir présenter ou recevoir un argument, je serais bien surpris s'il était inférieur à qui que ce soit. Si donc Protagoras aussi confesse qu'il ne vaut pas Socrate dans la discussion, Socrate n'en demande pas davantage. Mais s'il lui dispute la supériorité, qu'il accepte la discussion par demande et par réponse, sans tirer ses discours en longueur à chaque question, qu'il cesse d'étudier les arguments, de refuser la réplique et de s'étendre jusqu'à faire oublier de quoi il est question à la plupart des auditeurs. Car je garantis, moi, que Socrate n'oubliera rien, bien qu'il s'amuse à soutenir qu'il n'a pas de mémoire. Mon avis est donc que la prétention de Socrate est la mieux fondée, puisqu'il faut que chacun dise son sentiment. Après Alcibiade, ce fut Critias, si je ne me trompe, qui prit la parole. Prodicos et Hippias, dit-il, il me semble que Callias est bien décidément pour Protagoras. Quant à Alcibiade, il veut toujours avoir raison, quoi qu'il se mette en tête. Mais nous ne devons en aucune façon prendre parti ni pour Socrate ni pour Protagoras. Prions-les plutôt tous les deux, impartialement, de ne pas laisser là l'entretien. Critias ayant ainsi parlé, Prodicos prit la parole. « Il me semble que tu as raison, Critias. Il faut que ceux qui assistent à ces sortes de conversations écoutent les deux interlocuteurs impartialement, mais non également, car ce n'est pas la même chose. Il faut prêter à l'un et à l'autre une oreille impartiale, mais non tenir la balance égale entre eux. Il faut accorder davantage aux plus habiles et moins aux plus ignorants. Moi aussi, Protagoras et Socrate, je vous en prie, mettez-y de la complaisance et discutez ensemble sans vous quereller. Discutez tout en restant bienveillant, c'est le fait de gens amis. Se quereller est le fait d'adversaires et d'ennemis. En m'écoutant, vous vous donneriez le spectacle de la plus belle discussion, et ce serait pour vous qui parlez le meilleur moyen d'obtenir de nous qui écoutons, je ne dirais pas la louange, mais l'approbation, car l'approbation résiste dans les âmes des auditeurs et ne trompe pas. La louange sur les lèvres de gens qui souvent mentent et déguisent leur opinion. Et ce serait aussi pour nous, les auditeurs, le meilleur moyen d'en tirer, non du plaisir, mais de la joie, car la joie est la satisfaction de l'esprit seul qui apprend et qui acquiert la sagesse, et le plaisir est la satisfaction du corps seul, quand il mange ou éprouve Quelque autre sensation agréable. Ce discours de Prodicos reçut un bon accueil d'une bonne partie des assistants. Après Prodicos, le savant Hippias tint ce discours. « Vous qui êtes ici présents, je vous regarde tous comme parents, alliés, concitoyens, non par la loi, mais par la nature. Car le semblable est naturellement parent du semblable. Mais la loi, tyran des hommes, fait souvent violence à la nature. Aussi serait-ce une honte pour nous, qui connaissons la nature des choses, qui sommes les plus savants des Grecs, et qui à ce titre avons pris dans la Grèce pour lieu de rendez-vous le Prytané même de la sagesse, et dans cette ville la maison la plus considérable et la plus opulente, de ne rien dire qui soit digne de notre réputation, et de nous quereller les uns avec les autres, comme les derniers des hommes. Je vous conjure donc, et vous, conseil, Protagoras et Socrate, de vous accommoder et de vous en rapporter à nous, comme à des arbitres qui vous engage à prendre milieu. Toi, Socrate, ne sois pas trop exigeant sur la forme rigoureuse du dialogue à la manière concise. Si elle ne plaît pas à Protagoras, mais détends et lâche tes rênes à tes paroles, soit qu'elles nous apparaissent plus magnifiques et plus belles. Et toi, de ton côté, Protagoras, ne mets pas toute voile dehors, et te laissant emporter par le vent favorable, ne fuis pas vers la haute mer de l'éloquence jusqu'à perdre de vue la terre, mais prenez l'un et l'autre la toute route immédiate, intermédiaire. Voilà ce que vous ferez, vous choisirez, si vous m'en croyez un juge, un président, un prytane, qui veillera à la juste mesure de vos discours à tous deux. Cette proposition plut à la compagnie et obtint tous les suffrages. Callias déclara qu'il ne me laisserait pas partir et on me pria de choisir un président. Je répondis qu'il serait humiliant pour nous de soumettre nos discours à un arbitre. Si en effet on choisissait un homme qui fût inférieur à nous, il ne convenait pas que le pire fît la loi au meilleur. S'il était notre égal, cela ne convenait pas davantage, car un égal ferait tout comme nous, et ainsi le choix en serait superflu. Mais, dira-t-on, vous choisirez un meilleur que vous. À dire vrai, je regarde comme impossible qu'on choisisse un plus habile homme que Protagoras. Si enfin vous choisissez quelqu'un qui ne vaille pas mieux que lui, mais que vous donniez pour supérieur à lui, c'est faire un affront à Protagoras que de lui imposer un surveillant comme un homme de peu. Pour ce qui me concerne, je n'y attache aucune importance. Mais voici que je viens faire pour satisfaire votre désir et continuer notre réunion et notre conversation. Si Protagoras ne veut pas répondre, qu'il interroge. Moi, je répondrai et en même temps, j'essaierai de lui montrer comment je pense qu'il faut répondre lorsqu'on est interrogé. Puis, quand j'aurai répondu à toutes les questions qu'il lui plaira de me poser, qu'à son tour il me donne la réplique comme je la lui aurais donnée. Si alors il montre peu d'empressement à répondre à la question même, vous et moi, nous lui ferons en commun la prière que vous m'avez faite de ne point rompre la conversation. Il n'est aucunement besoin pour cela d'avoir un président. Vous présiderez tous en commun. Tout le monde approuva cette manière de faire. Elle n'était pas du tout du goût de Protagoras, mais il fut forcé d'accorder qu'il interrogerait et qu'après avoir suffisamment interrogé, il répondrait à son tour en peu de mots. Il commença donc à interroger de cette manière.
« Je suis d'avis, Socrate, dit-il, que l'objet principal de l'éducation est la connaissance de la poésie, c'est-à-dire la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal dans les œuvres des poètes, et le talent de les analyser et de résoudre les questions qu'elles soulèvent. Et maintenant, je vais te poser une question qui ne s'écartera pas du sujet, la vertu dont nous disputions tout à l'heure. Toi et moi,
mais qui nous transportera dans le domaine de la poésie. Ce sera toute la différence. Simonide dit quelque part à Scopas, fils de Créon le Thessalien, « C'est une chose difficile, je l'avoue, de devenir un véritable homme de bien, carré des mains, des pieds, de l'esprit, et fait sans reproche. Connais-tu ce poème ou te le réciterai-je entier ?»« Oh, ce n'est pas nécessaire, dis-je, je le connais. Justement, je l'ai étudié avec soin. »« Tant mieux, dit-il. Et maintenant, comment le trouves-tu ? Beau et juste ou non ?»« Oh, tout à fait beau et juste, repartis-je. Mais trouves-tu qu'il soit beau si la poésie s'y contredit ?»« Oh non, dis-je. Eh bien, reprit-il, examine le mieux. Mais mon cher, je l'ai examiné suffisamment. Alors, tu sais, dit-il, que dans la suite du poème, il dit le mot de Pythagoras non plus ne me paraît pas juste, bien qu'il sorte de la bouche d'un sage quand il prononce qu'il est difficile d'être homme de bien. Et sais-tu bien que c'est le même homme qui dit ceci, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. « Je sais, dis-je. »« Eh bien, reprit-il, trouves-tu que ces deux passages s'accordent ?»« Ben, il me le semble. » Mais tout en faisant cette réponse, j'appréhendais pourtant qu'il ne fût dans le vrai. « Et toi, ajoutais-je, tu trouves pas qu'il s'accorde ?»« Mais comment trouver qu'un homme s'accorde avec lui-même quand il affirme ces deux choses à la fois ?» Quand, après avoir posé lui-même en principe qu'il était difficile de devenir un véritable homme de bien, il l'oublie un peu plus loin dans le même poème, et citant Pythagoras, qui a dit la même chose que lui, à savoir qu'il est difficile d'être vertueux, il le blâme et déclare qu'il ne l'approuve pas, quoique Pythagoras parle exactement comme lui. Or, quand il blâme un homme qui tient le même langage que lui, il est évident qu'il se blâme lui-même et qu'il s'est trompé dans le premier passage ou dans le second. Ce discours souleva de bruyants applaudissements parmi beaucoup d'auditeurs. Et moi, tout d'abord, comme si j'avais été frappé par un habile boxeur, je fus étourdi, et la tête me tourna sous le coup de ses paroles et des acclamations. Puis, à te parler franchement, je cherchais à gagner du temps, pour approfondir la pensée du poète. C'est pourquoi je me tournai vers Prodicos et l'interpellant. « Prodicos, lui dis-je, Simonide est un compatriote à toi. Il est juste que tu viennes à son secours. Je crois donc devoir l'appeler à mon aide, comme chez Homère le Scamandre pressé par Achille appelle à lui le Simoïs, en lui disant « Cher frère, unissons-nous pour arrêter ce puissant guerrier. Moi aussi je t'appelle dans la crainte que Protagoras ne renverse notre Simonide. Pour le maintenir debout, il ne faut rien de moins que ta science, cette science qui te fait distinguer la volonté et le désir comme deux choses différentes, et qui t'a fait dire tant de belles choses tout à l'heure. Mets-la encore en usage, et vois si tu es du même avis que moi. Il ne trouve pas que Simonide se contredise. Déclare-nous donc d'abord ton sentiment, Prodicos. Te semble-t-il que devenir et être soient choses identiques ou différentes ? Oh, différentes, par Zeus, répondit Prodicos. N'est-il pas vrai, dis-je, que dans le premier passage, Simonide nous a révélé lui-même sa pensée, qu'il est difficile de devenir un véritable homme de bien ? Oh, c'est vrai. Répondit Prodicos. Et quand il blâme Pythagoras, dis-je, ce n'est pas, comme le pense Protagoras, d'avoir dit la même chose que lui, mais une chose différente, car Pythagoras n'a pas dit, comme Simonide, que la difficulté est de devenir vertueux, mais d'être vertueux, et ce n'est pas la même chose. Protagoras, Prodicos te l'affirme, qu'être et devenir est si être et devenir sont deux, Simonide ne s'est pas contredit. Prodicos et bien d'autres pourraient peut-être dire avec Hésiode qu'il est difficile de devenir homme de bien, parce que devant la vertu, les dieux ont mis la sueur. mais que lorsqu'on est arrivé au sommet, elle devient facile à garder, quoique difficile à atteindre. Prodicos, ayant entendu ces paroles, me donna son approbation. Mais Protagoras répliqua, « Ton interprétation, Socrate, ne fait qu'aggraver la faute du texte. » Je lui répondis, « Alors, j'ai fait de mauvaises besognes, selon toi, Protagoras. Je suis un plaisant médecin. En voulant guérir le mal, je l'aggrave. »« Eh oui, c'est ainsi, » dit-il. « Comment cela, » dis-je. « Le poète aurait bien peu d'expérience, dit-il, de prétendre, comme tu le fais, que l'acquisition de la vertu est une chose facile, alors qu'au jugement de tout le monde, c'est la plus difficile de toutes. »« Par Zeus, » m'écriai-je, « oh, c'est une chance que Prodicos soit présent à notre discussion. » »« Car la science de Prodicos, Protagoras, semble bien être une science divine et ancienne, qui remonte à Simonide ou même à un passé plus reculé. » Mais cette science, il paraît bien que tu l'ignores, toi qui sais tant de choses. Tandis que moi, j'y suis versé, étant l'élève de Prodicos. Ainsi, dans le cas présent, il me semble que tu ne rends pas compte que peut-être Simonide n'a pas pris le mot difficile dans l'acception que tu lui donnes. Tu fais comme moi pour le mot terrible à propos duquel Prodicos me reprend toujours. Quand pour te louer, toi ou un autre, je dis Protagoras est un savant et terrible homme. Je me demande si j'ai pas honte d'appeler terrible les choses qui sont bonnes, car terrible, selon lui, désigne quelque chose de mauvais. En effet, on ne dit jamais terrible richesse, terrible paix, terrible santé. Mais on dit terrible maladie, terrible guerre, terrible pauvreté. Attendu que ce qui est terrible est mauvais. Il se pourrait de même que le mot « difficile » désigna pour les gens de Céos et pour Simonide une chose mauvaise en quelque autre chose que tu ne devines pas. Demandons-le à Prodicos. C'est à lui qu'il faut s'adresser pour expliquer la langue de Simonide. Dis-nous, Prodicos, que voulait dire Simonide par le mot « difficile » ? « Mauvais, » répondit-il. « Voilà donc pourquoi, Prodicos, » repris-je, « Simonide blâme Pythagoras de prétendre qu'il est difficile d'être vertueux, comme s'il lui avait entendu dire qu'il est mauvais d'être vertueux. »« Crois-tu, Socrate, » répondit-il, « que Simonide veuille faire entendre ici et reprocher à Pythagoras autre chose que son ignorance de la propriété des termes ? Pythagoras étant de Lesbos et habitué à parler un dialecte barbare, « Mais entends-tu, dis-je à Protagoras, entends-tu ce que dit Prodicos ? N'y trouves-tu rien à redire ? Oh, tu es bien loin de la vérité, Prodicos, répondit Protagoras, et je suis bien assuré que Simonide lui-même donnait au mot difficile le sens que nous lui donnons tous, non pas de mauvais, mais de malaisé, de pénible à faire. Mais c'est aussi mon avis, Protagoras, dis-je. C'est bien cela que Simonide a voulu dire. » Et Prodicos le sait fort bien. Mais il s'amusait et voulait te mettre à l'épreuve pour voir si tu serais de force à soutenir ton opinion. Que d'ailleurs, Simonide ne donne pas à difficile le sens de mauvais. J'en vois une preuve irréfutable dans la phrase qui suit immédiatement et que voici. Un dieu seul peut jouir de ce privilège. Est-il possible que Simonide soutiennent qu'il est mauvais d'être vertueux, pour affirmer aussitôt après qu'un dieu seul peut l'être, et pour attribuer ce privilège à la seule divinité. En ce cas, Prodicos ferait de Simonide un impie, digne d'être de Céos. Mais quel était le dessein de Simonide en composant ce poème ? Je vais t'en dire mon avis, pour peu que tu sois curieux de mettre mon savoir à l'épreuve, dans ce que tu appelles la lecture des poètes, ou si tu le préfères, je te cède la parole. À ma proposition, Protagoras répondit, « Oh, comme tu voudras, Socrate. » De leur côté, Prodicos et Hippias me pressèrent vivement de parler, et les autres aussi.